Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Érosmose. Érotisme. Coquinerie. Sexualité. Sur Osmose Radio.
Bonsoir, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous nous rejoignez en cette veille de week-end, ce vendredi 29 novembre au soir. Soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien dans Érosmose pour votre émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité. Une émission mensuelle et là, en ce mois de novembre, on avait envie de vous réchauffer un peu la libido avec des sujets un petit peu grivois et aussi rarement abordés à la radio française. Ces derniers temps. Et pour ce faire, évidemment, je ne suis pas tout seul. Moi, Stéphane, il y a bien entendu avec moi la plus charmante squo de la radio française, Laurence. Bonsoir.
C'est ça, Stéphane, c'est la plus charmante. Vaguement lapin russe ce soir. Je vais essayer de vous le faire version Macha Béranger, mais je crois que j'arriverai pas à avoir sa voix.
Tu
Bienvenue
es un tantinet
enrhumé. Sur Érosmose, oui.
Et bien entendu, on a aussi le papouze d'Osmose Radio derrière les manettes, Nourdine, bien entendu. Heureusement qu'il est là. Voilà, chers amis. Donc, ce soir, on avait envie d'aborder, disais-je, un thème qui est relativement rarement abordé dans les médias et à la radio, c'est-à-dire la condition des femmes dans les sociétés amérindiennes d'Amérique du Nord. Parce que, avec Laurence, on avait une conversation il y a quelques temps à propos de Frida Kahlo et des femmes au Mexique en règle générale. Et puis, finalement, ça a aperçu que si on connaissait tous des grands personnages de l'histoire amérindienne, hein, les chefs guerriers genre Sitting Bull, Tecumseh, Geronimo, etc., etc., ben finalement on ne connaît pas grand-chose des femmes de ces époques-là et de ces sociétés lointaines. Et du coup, ben, on s'est dit qu'on allait se pencher un petit peu sur le sujet, ce sera notre thème ce soir. Et du coup, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, eh bien, je vous propose une chanson d'un Canadien pour l'occasion, en tout cas un Québécois, Rock voisine avec la légende aux Chiggers.
Autant des légendes anciennes. Avant que l'homme blanc ne vienne, vivait une jeune orpheline. Un jour, une flamme trop vive, que le vent souffla de la rive, lui vola sa beauté divine. Son cri résonna dans la plaine, la terre et le vent se souviennent de son courage et de sa paix. Elle s'appelait Ouchigeas. Ouchigeas. Dans un des villages voisins vivait un prince magicien qui fit la promesse impossible d'unir sa vie et son histoire à celle qui saurait le voir, lui que l'on savait invisible. Toutes les filles du village le virent là-bas que son mirage et la seule à voir son visage. Ça s'appelait Ouchigeas. Ouchigeas. Autant des légendes anciennes avant que l'homme blanc vivait une orpheline indienne. Ouh,
avant que l'homme blanc ne vienne, vivait une orpheline indienne.
À l'instant, on revenait un petit peu dans les années 90 avec un grand succès de rock voisine, ce francophone d'outre-Atlantique qui interprétait une chanson largement inspirée de l'univers et de l'imaginaire des Indiens d'Amérique, des autochtones, des Premières Nations, comme on les appelle au Canada. Et c'était ce titre, la légende Ouchiga, donc chante interprétée à l'instant par rock voisine, si j'ose le dire, avec l'accent.
C'est lui qui était seul sur la plage, hein, c'est ça ?
Abandonné, voilà.
Oui. Coquillage et crustacés.
C'était pas tout à fait le même, mais tu n'as pas tort. Et quoi qu'il en soit, donc ce bel âtre avait un petit peu évoqué cet univers dans cette chanson. Et on avait envie de faire la même chose, nous, dans cette émission, mais sous un prisme un petit peu différent, celui des thèmes un peu liés à l'érotisme et à la sexualité, comme on a l'habitude de les aborder dans Erosmose. Et du coup, on va pas forcément vous donner des détails croustillants sur ce qui se passait sous les tipis qui ponctuaient les grandes plaines au 19e siècle. Hein. Ça restera un petit peu à la discrétion des peuplades Sioux et Cheyenne. Mais par contre, on va quand même vous donner quelques éléments sur la condition de la femme dans les sociétés d'Amérique du Nord avant la colonisation, dans ce qui est aujourd'hui le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et pour ce faire, on va parler un petit peu, on va aborder quelques sujets, parce que comme je le disais en préambule de cette émission, si on connaît bien les grands personnages de la culture amérindienne, ceux qui ont tourné avec Buffalo Bill, comme Geronimo par exemple, ceux qui ont tenu la dragée haute au général Custer à la bataille de Little Big Horn, je pense à Sitting Bull et ses confrères d'armes, il y a aussi des grandes dames dont on ignore tout.
Je voudrais juste te dire, est-ce que tu sais que Buffalo Bill avait rencontré Frédéric Mistral ?
Oui, j'ai entendu parler de ça. Et je sais qu'il y a des Indiens, puisque tu parles des Frédéric Mistral, donc le Félibrige, et Folco de Baroncelli, qui était très proche de lui. Donc cet homme-là, qui avait un palais d'ailleurs à Avignon, le palais du Roure, et qui était le maître des gardiens, en quelque sorte. Ils avaient organisé un échange culturel avec des Sioux des Grandes Plaines, puisque les gardiens, eux aussi, passent leur vie sur leur cheval. Donc voilà, petite anecdote en ce qui concerne les accointances entre la culture provençale et la culture amérindienne. Bien joué. Et je disais, ce soir, donc du coup, il n'est pas question pour moi, malgré ce petit aparté, il n'est pas question ici de faire des jugements de valeur et de dire que c'était les gentils Indiens contre les méchants blancs anglais, français ou espagnols qui envahissaient l'Amérique du Nord il y a de cela quelques siècles. Vous verrez aussi par quelques détails que je donnerai que les Indiens ont parfois été particulièrement médiocres et mesquins, eux aussi. Donc il ne s'agit pas de faire des jugements de valeur ce soir. De la même manière, il ne s'agit pas de dire non plus faire de la réappropriation culturelle, etc., en disant que leur culture est bien mieux que la nôtre. C'est simplement deux cultures différentes, aux antipodes parfois pour ce qui est des domaines spirituels notamment. Voilà. Donc il se trouve qu'il y en a une qui a un petit peu phagocyté l'autre, mais on va quand même donner quelques éclairages un petit peu particuliers ce soir. Et du coup, j'avais envie d'aborder ça sous le thème et des femmes du commun, des femmes dont on n'a pas les noms, et aussi des grands personnages. Puisque je vous disais que l'on connaît bien les grands personnages masculins, pas forcément les féminins. Néanmoins, le cinéma, puisque moi, je reconnais humblement que la plupart des informations que j'avais avant de préparer cette émission me venaient principalement du cinéma. La culture que je me suis faite sur le sujet venait simplement beaucoup, beaucoup de là. Je vous renvoie forcément au très bon film de Kevin Costner, Danse avec les loups. Oui. Ne serait-ce que celui-là.
Little Big Man.
Oui, voilà, le cinéma hollywoodien, des fois, est capable de produire de très bonnes choses. Et le cinéma indépendant aussi, à l'occasion. Et pour ma part, c'est vrai qu'il y a eu Danse avec les loups, il y a eu Soldier Blue, un film des années 70, qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur la condition des femmes dans les sociétés Cheyenne, qui était sûrement une des sociétés amérindiennes les plus en avance, si on se place dans un prisme progressiste à l'occidental, je veux dire. Mais en tout cas, c'était vraiment une société dans laquelle les femmes avaient beaucoup d'indépendance. indépendance. Indépendance toute relative, évidemment. C'était quand même des sociétés tribales, mais quand même. Et voilà. Et du coup, il y avait aussi le film Atanar Juhat qui était un film qui nous montrait un petit peu comment hommes et femmes vivaient dans leurs igloos au Groenland, donc dans l'extrême nord du continent, etc., etc. Mais j'ai envie de m'attarder de façon peut-être un peu puérile, mais c'est pas grave, sur un film Disney qui nous aura sans doute tous beaucoup marqué, c'était qui reprenait la légende de Pocahontas. La légende, en fait, à partir d'un personnage historique, quand même. Parce que cette Pocahontas et John Smith, son alter ego masculin, ont réellement existé. Par contre, évidemment, l'histoire a été très romancée avec une bluette, etc.
Ah bah, Disney, hein, les studios Disney, quand même. Donc bon.
Et voilà, je crois qu'on va pas épiloguer. Ça résume, ta formule résume tout. Les studios Disney ont pas mal romancé l'histoire. Mais en fait, il faut savoir, c'est que quand les colons anglais, à l'époque, se sont installés en Virginie, donc au début du XVIIe siècle, dans les années 1600 et les brettes, eh bien, il y avait ce John Smith avec eux, et il venait s'installer, donc au nom de la couronne d'Angleterre, dans ce qui est aujourd'hui l'état de Virginie, sur la côte est des États-Unis. Et cette Pocahontas, à l'époque, était une petite gamine curieuse, elle avait 12 ans, et en fait, Pocahontas, c'était pas son vrai nom. J'ai zappé la manière dont... son patronyme, en fait, puisque son patronyme dans la langue... des Indiens de sa tribu. Mais Pocahontas, en fait, c'était son petit nom, c'était son surnom, et ça signifie gamine facétieuse, en fait. Voilà, pour l'anecdote. Et en fait, le John Smith, lui, c'est un homme déjà d'une trentaine d'années, elle avait 12 ans, donc en fait, il n'y a jamais eu réellement d'histoire d'amour entre eux. Et d'ailleurs, quand elle est allée en Angleterre pour le retrouver, elle l'appelait mon père. Voilà, donc c'était un petit peu son père de substitution. Et c'est aussi un détail ironique de la mentalité amérindienne, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs père, les relations familiales ne sont pas du tout envisagées comme chez nous autres. Et pourtant, il y avait quand même des systèmes de tribus et de familles nucléaires, c'est-à-dire un homme avec une femme et une ribambelle de gosses. Mais il y avait aussi beaucoup de polygamie et parfois des mœurs familiales qui étaient assez déconcertantes pour les immigrés occidentaux qui arrivaient dans ces époques-là. Voilà. Donc, il y a cette histoire de Pocahontas qui est un petit peu un mythe fondateur pour les États-Unis. Un petit peu comme chez nous, ben le mythe de la fondation de Marseille. Hein, vous savez, les Grecs qui viennent de la cité phocéenne, enfin de Phocée, ce pour qu'on appelle Marseille la cité phocéenne, et puis qui rencontrent une princesse ligure. Et du coup, un Grec se marie avec une princesse ligure et ils fondent la ville de Marseille. Voilà. Y a toujours comme ça des récits fondateurs dans les sociétés nouvelles qui se créent, que ce soit sous l'Antiquité ou bien à l'époque moderne. D'ailleurs, ça existe aussi au Mexique, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc ces personnages, qu'ils soient réels ou fantasmés, et dans le cas de Pocahontas, eh bien, c'est les deux, eh bien, ces personnages permettent d'instituer en quelque sorte le premier pas, le départ en fait, de nouvelles civilisations, de nouvelles sociétés, de nouvelles cultures, à savoir ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Alors, évidemment, la condition de la femme a été très variable parce qu'on ne sait pas trop comment elle était avant les contacts avec les Européens, évidemment, parce qu'on n'a pas d'archives. On sait comment elle était au moment où les Européens ont commencé à coloniser le Nouveau Monde. Et on sait aussi comment elle s'est dégradée par la suite à cause des guerres, à cause de la paupérisation des Amérindiens au contact des vices notamment et de la société occidentale, des maladies diverses et variées et bien entendu des guerres qui finalement, ironiquement, ont été les événements qui ont fait le moins de morts chez les Amérindiens. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime autour de 9 millions en 1500 la population amérindienne d'Amérique du Nord à la fin du 19e siècle ils étaient plus que 250 000. Alors, vous imaginez un petit peu l'hécatombe, voilà. Mais c'est pas forcément les guerres qui ont fait une telle hécatombe. Ça a été aussi l'alcool, beaucoup, parce que les Amérindiens n'étaient biologiquement pas armés pour résister à la dépendance que peut induire l'alcool. Et bien entendu, toutes les maladies, le choléra au 19e siècle, mais bien avant déjà, il y avait toujours des salopards pour aller leur vendre des couvertures infectées avec des microbes. Et évidemment, les Indiens tombaient bouger comme des mouches. Voilà. Donc ça, c'était le cas, par exemple, cette méthode assez dégueulasse de faire la guerre a été testée pendant la guerre de 7 ans, quand les Français et les Anglais se battaient dans les forêts du nord-est de ce qui est aujourd'hui le Canada et le Québec. Je vous renvoie au très bon roman de Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans. Et en fait, il y a eu donc beaucoup d'autres guerres par la suite, bien entendu. Nous, on connaît bien celles du 19e siècle parce qu'elles nous ont été racontées par les films américains, là encore, notamment les westerns. Et finalement, tout ça s'est conjugué pour aboutir à la situation telle qu'elle est elle s'est figée un petit peu à la fin du 19e siècle. Mais pour autant, elle a beaucoup évolué depuis et on verra ça tout à l'heure. Donc pour le moment, j'avais envie de vous parler de tout ça et du contexte un petit peu ethnologique de l'Amérique du Nord, tel que c'était le cas, on va dire, à l'époque de Pocahontas, au début du XVIIe siècle. Alors, je vais résumer à gros traits, hein, parce que sinon il faudrait beaucoup plus d'une émission, mais grosso modo, en Amérique du Nord, vous aviez trois types de civilisations et beaucoup plus encore de peuples, de langues et de tribus, bien entendu. Vous avez des types de civilisations qui correspondaient peu ou prou à des grandes nations, parce qu'on peut parler de nations en ce qui concerne les peuples amérindiens, puisqu'ils avaient des langues communes, ils avaient des histoires communes, ils avaient des assemblées dans lesquelles ils se retrouvaient, ils négociaient des traités entre eux, ou ils apaisaient des guerres civiles parfois. C'était notamment les Powwow chez les Sioux, par exemple. Et tout ça, en fait, se retrouvait. Alors, vous aviez les Indiens qui vivaient dans les forêts, qui faisaient de la petite agriculture, de la cueillette et de la chasse, tels qu'on les connaît, là encore, dans le roman de Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, donc les Hurons, les Iroquois, notamment. Vous avez les Indiens des Grandes Plaines, alors, ce qui sont sans doute les plus célèbres. Je pense, évidemment, aux Sioux et aux Cheyennes et aux Comanches. Geronimo, Little Bighorn, tout ce dont on vous parlait tout à l'heure. Et enfin, vous avez, grosso modo aussi, pour conclure, les Indiens qui vivaient dans des petites villes, qui faisaient de l'agriculture, bon, pas aussi balèze que ce qui existait chez les Aztèques avec des systèmes d'irrigation très sophistiqués, mais tout de même, c'était de l'agriculture très productive et qui était tout à fait sédentaire, cela. C'était notamment le cas des Séminoles qui étaient en Floride et en Louisiane. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Français qui avaient d'abord colonisé le Québec, c'était fait des Indiens une idée de gens qui vivaient dans la forêt et qui crapahutaient à droite à gauche. Et puis après, quand ils sont allés coloniser la Louisiane, ils sont tombés sur des Indiens très différents. Donc ils sont un peu tombés des nues en se disant qu'effectivement, c'était pas les mêmes Indiens. Bah oui, mon gars, mais t'es un petit peu à quelques 2000 kilomètres, quoi. Donc c'est pas tout à fait les mêmes gens, c'est normal. Voilà. La littérature nous a donné quelques éléments, tout ça. Alors, les archives écrites des explorateurs notamment, mais aussi quelques romanciers qui nous sont un petit peu permis de nous faire une idée sensible de tout ça. Alors, à l'instant, je vais vous citer Fenimore Cooper avec Le dernier des Mohicans. Pour ma part, je connais aussi un petit peu Tony Hillerman qui écrit des polars notamment qui se passent souvent dans les réserves indiennes. Hein, le personnage principal.
Tony Hillerman. Ouais. Spécialiste des réserves Navajo. Mais il n'est pas indien. Hein.
Lui-même n'est pas indien, ouais. Mais il a toujours des personnages d'inspecteurs Navajo, de la police tribale, effectivement. Mais on n'a pas beaucoup de personnages féminins dans tout ça. Peut-être une petite exception pour un auteur, en fait, qui s'appelle, si je retrouve son nom, Jim Fergus, qui a sorti il y a une vingtaine d'années un bouquin qui s'appelait « 1000 femmes blanches » et qui évoque le cas des prisonnières, des otages, en fait, qui étaient prises par les Cheyennes, qui faisaient des radias et qui capturaient des femmes blanches, non pas tant pour de l'exploitation sexuelle ou économique, mais tout simplement, ça pouvait être aussi le cas, bien sûr, hein, il y a toujours des salopards pour abuser des situations, de quelque bord que ce soit. Mais c'était surtout une valeur d'échange pour quand des guerriers Cheyennes étaient capturés par l'armée américaine, et bien pour faire des échanges d'otages, en quelque sorte. Voilà. Mais je reconnais que mes références littéraires sont plutôt limitées, mais toi, Laurence, tu en as quelques autres.
Alors, j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que sur les femmes écrivains indiennes, amérindiennes, il y en a finalement assez peu. Il y en a une quand même qui est très connue, qui s'appelle Louise Erdrich, qui est née en 1954, bien sûr, dans le Minnesota. Et elle est d'origine germano-américaine et amérindienne. C'est une des grandes voix de la nouvelle littérature indienne d'outre-Atlantique. qui a écrit des très beaux livres. Le tout, c'est que je retrouve ma feuille, comme d'habitude, tu sais bien, la voilà. Donc, elle avait écrit, entre autres, hein, la chorale des maîtres bouchers, Love Medicine. Mais ça, c'est Love Medicine, c'est vraiment porté sur les remèdes indiens. D'ailleurs, hein. Et encore ce qui a dévoré nos cœurs et son écriture, c'est vrai, je te l'ai dit tout à l'heure, on parlait de Toni Morrison, il y a des accents. Juste pour dire qu'elle a été récompensée par de nombreux prix littéraires, elle a été distinguée en 2012 par le prestigieux National Book Award. Et puis il y avait une autre qui est très intéressante, qui est décédée en 1971, c'est Ella Cara Deloria. C'est une véritable Lakota, une indienne Lakota, qui était anthropologue, linguiste, ethnographe, éducatrice et une écrivaine. Elle était Lakota Sioux.
En fait, le Lakota était une langue et Sioux était la nation. Voilà. Mais il y avait plusieurs langues, enfin deux principales, le Lakota et une autre, et en fait, c'était un même peuple.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en général, on les trouve beaucoup pas trop dans le Dakota du Sud, hein, ou les Dakota. Alors il y en a d'autres, c'est vrai. Il y en avait une qui avait écrit, je me souviens plus, ça va me revenir. Parce que il y a Nordine qui me fait des signes, le régisseur fait des signes.
Non, parce qu'en fait, on a des micros qui s'affaissent dans le studio.
Voilà, bouge un peu. Mais moi, je connais davantage, c'est vrai, les écrivains hommes, encore que je ne sois pas non plus la grande pro de la littérature indienne. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a Welsh, bien entendu, aussi, James Welsh.
Mais le fait que tu les aies précisés, de toute façon, montre que, comme disait Napoléon, hein, il y a deux forces en ce monde, la plume et l'épée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les femmes indiennes ont renoncé à prendre l'épée parce que la civilisation occidentale s'était imposée sur le continent, eh bien, elles se sont bien rattrapées avec la plume. Et tu en as donné quelques exemples, notamment. Voilà. Et justement, je parlais des grands personnages de l'histoire, qui sont principalement des sorciers comme Geronimo, qui n'était pas un chef de guerre, hein, contrairement à ce qu'on pense, qui était plutôt un genre de pas un grand Manitou, mais un chef religieux, enfin en tout cas spirituel en quelque sorte, et des chefs de guerre réellement, comme Sitting Bull par exemple chez les Sioux. Eh bien, il y a eu des équivalents chez les femmes, et ça, je l'ai vraiment appris en préparant cette émission. Vous avez, alors je vous donne quelques noms comme ça aux débeautés, mais évidemment, je vous mettrai quelques références sur le Facebook d'Erosmos si vous avez envie d'approfondir un petit peu. Alors comme ça, aux débeautés, je peux vous parler de la première femme guerrière de l'histoire des nations amérindiennes. C'était Witamou. Elle est née en 1635 à peu près, et puis elle est morte à peu près 50 ans plus tard. Et elle a mené la vie dure aux troupes britannique dans le nord-est du continent à l'époque, aux premières époques de la colonisation. Alors elle devait donc faire partie des tribus de Delaware ou Huron, en tout cas des tribus de langue algonquine de l'est des États-Unis, qui ont été les premières en contact de fait avec les envahisseurs européens. Et sinon, vous avez une autre personnage, une personne intéressante, c'était Nene Yeye, qui a été rebaptisée une fois qu'elle s'est convertie au christianisme, contrainte ou forcée, peut-être, je ne sais pas, Nancy Ward, qui, elle, un siècle plus tard, entre 1738 et la fin du XVIIIe siècle, a été en fait une femme qui a aidé, en tant qu'interprète et qu'éclaireur, les colons qui ont voulu passer les Appalaches et aller amorcer ce qu'on a appelé plus tard la conquête de l'Ouest, notamment. Et cette femme, elle a sa statue sur la place du Capitole à Washington. C'est-à-dire qu'elle elle est considérée comme un des grands personnages de l'histoire américaine, au même titre que Franklin Roosevelt ou le général Custer, par exemple, voilà, ou Ulysse Grant, etc. Donc ça, c'était, pour moi, c'est vraiment été surprenant d'apprendre ça. Et vous en avez plein d'autres. Hein. Sacagawea, qui elle était aussi une femme de trappeur qui, elle aussi, a joué les interprètes. Excusez-moi. Et sinon, en fait, vous avez aussi des femmes qui, comme je le disais, quand elles n'ont pas pris l'épée, ont aussi pris la plume. C'était le cas de Sarah Winnemucca, qui, au mi-temps du 19e siècle, elle aussi, d'ailleurs, a sa statue sur la rotonde du Capitole, eh bien, elle a publié un livre de ce qu'on n'appelait pas encore l'ethnologie, en parlant un petit peu, en décrivant un petit peu les us et coutumes de son peuple. Et ça nous a permis d'éviter que ça disparaisse d'ailleurs. Et elle a ouvert une école, pour, un peu comme Louise Michel, pour aider les enfants à se défendre dans une société qui n'était pas forcément faite pour eux. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir qu'il y a eu des initiatives aussi semblables pour deux femmes totalement différentes, quoi, Louise Michel ou Sarah Winnemucca, à des milliers de kilomètres. Elles ont eu la même idée, elles ont eu bien raison, à mon avis. Voilà. Et donc vous avez ces personnages, ces grandes dames qui se sont imposées. Alors, par exemple, c'est des femmes aussi qui étaient dans une situation sociale parfois pas favorisée, mais en tout cas qui permettait d'inciter à ça. Par exemple, la première que je vous ai citée, Witamu, elle était fille de Sachem. Donc, c'était un grand chef de tribu. Donc, forcément, quand tu vas après prendre les armes, toi aussi, ben, ça aide parce que tu as eu une petite formation initiale. Donc, ça peut aider. Et puis aussi, les femmes, traditionnellement, dans les sociétés amérindiennes, très généralement, globalement, dans l'ensemble du continent, sont souvent associés aux activités spirituelles. Il y a évidemment des chamans, des sorciers, mais il y a beaucoup plus encore souvent des chamaneux, des sorcières qui sont... Parce qu'ils ont une conception de la religion, je ne vais pas me pesantir là-dessus, mais ils ont une conception de la religion, de la spiritualité tellement liée au culte des ancêtres et plus précisément, et plus important encore, de la nature, que dans leur mentalité, la nature étant plutôt une psyché féminine en quelque sorte, il y a Wakantanka qui est le grand être qui inspire toute chose, mais quand il s'adresse rarement directement aux êtres humains, il passe souvent par l'intermédiaire d'une femme, d'une déesse à la psyché féminine plutôt, et ce pourquoi on a interprété que les Indiens préféraient avoir des chamaneux pour invoquer les esprits, parce que pour eux, ça leur semblait beaucoup plus naturel de passer par une entité féminine, etc. Et d'ailleurs, les transsexuels, pour l'anecdote, avaient aussi leur place dans nombre de sociétés amérindiennes. Alors, j'ai pas pu trouver lesquelles précisément, mais si on n'était ni homme ni femme, on pouvait quand même avoir une place dans ces sociétés, aussi primitives soient-elles, curieusement. Ça peut étonner certains. Et du coup, on était... là encore, par contre, on était cantonné dans un rôle social précis, et c'était celui, justement, lié à la religion. On était peu ou prou l'interprète, ayant un statut un petit peu ambigu au niveau de sa sexualité. Eh bien, on était
n'empêche qu'ils n'étaient pas mis à l'écart. Ils étaient vraiment inclus dans la société. Ils étaient intégrés dans la société.
Oui, ah oui, tout à fait, voilà. Ils n'étaient pas en marge de la société tribale telle qu'elle existait à l'époque, voilà. Et par contre, bah, une société qui s'est retrouvée facile, vite fait, en marge de la, de la société américaine, bah, ça a été les tribus indiennes, justement. Et je vous disais qu'on avait des traces de quasiment ethnologiques d'auteurs, et je pense notamment à un qui s'appelait Alexis de Tocqueville, qui, dans les années 1830, c'était un Français, en fait, un petit noble français, qui, dans les années 1830, était allé faire un périple en Amérique du Nord. Il était mandaté par le gouvernement de Louis-Philippe pour faire une étude plus ou moins sociologique de la société américaine. Et il a écrit un bouquin qui est une référence pour les Américains eux-mêmes, qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». En fait, c'est un traité de sciences politiques. Mais en marge de cette étude, Alexis de Tocqueville nous a laissé aussi quelques traces dans ses cahiers des rencontres qu'il a fait avec les Indiens, dont le sort l'avait beaucoup choqué et parfois aussi qui a écrit quelques propos choquants. Je pense notamment parce que pour lui, ce qui était intéressant, c'était de découvrir les marges de la société civilisée. Et en fait, quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est aperçu que les Indiens étaient en grosso modo deux groupes. Tu avais les cinq nations civilisées, comme les Américains les appelaient eux-mêmes, c'est-à-dire les Séminoles, etc. C'est des gens qui étaient sédentaires, qui s'étaient beaucoup métissés, soit par des histoires d'amour, soit par des viols, hein, disons-le clairement, qui s'étaient beaucoup métissés avec les occupants américains, les arrivants européens. Et c'était le cas aussi des Comanches, des Séminoles, etc. Enfin, surtout ces nations du sud des États-Unis qui se sont plus tard retrouvées impliquées dans la guerre de sécession. Et du coup, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait ces Indiens qui avaient été assimilés, par la culture occidentale, et ceux qui vivaient en marge et qui étaient toujours dans la vie sauvage. Et eux et lui étaient allés pour rencontrer ces derniers, et finalement, il a aussi découvert les premiers dont le sort l'a un petit peu effrayé, parce qu'ils étaient totalement dans la décadence, et c'était des semi-clodos, quoi, pour beaucoup. Ils vivaient dans des taudis, et ils étaient vraiment confrontés à l'alcoolisme, voilà.
Eh ben juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en citant un autre Alexis, je pense à cet auteur indien, Alexis Sherman, qui est un indien Spokane, ou Spokane, je ne sais pas comment on dit. C'est une toute petite tribu, hein, les Spokane, et qui écrit des livres et des nouvelles, dont ces fameux 10 petits indiens, qui lui décrit particulièrement la précarité de ces indiens qui ont quitté... Les endroits dans lesquels ils avaient l'habitude de résider pour intégrer la grande ville et qui vivent dans la précarité, l'alcool, la détresse, les jeux et l'argent. L'argent facile, non, mais la grande détresse dans laquelle ils sont, avec beaucoup d'humour et beaucoup de talent. Alexis Sherman.
Ah, j'ignorais ce détail, voilà. Et donc Alexis de Tocqueville, lui s'est aperçu que dans la société américaine telle qu'elle existait dans les années 1830, attention, hein, ça n'allait pas jusqu'en Californie quand même, mais lui, il a fait un périple donc, dans ce qui est aujourd'hui le Michigan, voilà, donc là, ce qui correspond peu ou prou à la région de Chicago et les Grands Lacs, tout ça. Et donc, il a rencontré des Indiens que les gens appelaient sauvages. Et il s'est aperçu qu'en fait, ces gens-là n'étaient pas forcément des gens qui avaient vécu dans cette région du Michigan de toute éternité. C'était parfois des gens dont la famille ou eux-mêmes étaient nés beaucoup plus à l'est, mais ils avaient été chassés de façon successive par les progrès de la colonisation. Et du coup, ils se sont retrouvés là, et peut-être qu'après Alexis de Tocqueville, une fois qu'il était parti, eh bien, l'urbanisation les a poussés encore ailleurs. Et alors, il est assez admiratif de leur façon de vivre en accord, en symbiose avec la nature, etc. Mais en même temps, il a des termes assez durs. Il trouve les Indiennes absolument affreuses, avec leurs tatouages et leur robe. Alors en même temps, là, il faut se replacer dans le contexte. Alexis de Tocqueville n'était peut-être pas très objectif parce qu'étant lui-même coureur de jupons, il a peut-être mal pris que des femmes indiennes aient résisté à ses avances. Mais bon, ça, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire.
C'est pas marqué dans l'histoire, là. C'est pas marqué dans les manuels.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que donc les Indiens assimilés, en quelque sorte, qu'il a rencontrés dans les taudis les taudis, il s'est ce mec, il a surtout côtoyé la bourgeoisie, il ne s'est pas trop aventuré dans les taudis. Mais il se trouve quand il a croisé des clodos dans les villes américaines, il a été essoufflé parce qu'il s'est aperçu que c'était des Indiens. Il les imaginait pas du tout comme ça. Lui, il avait lu Chateaubriand, notamment, qui en donnait une version beaucoup plus romantique, hein, parce que Chateaubriand avait lui aussi fait un voyage en Amérique quelques 20 ans auparavant. Et du coup, voilà, il a été un petit peu surpris. Évidemment, ce n'est pas la majeure partie de son œuvre, mais ça nous laisse quelques témoignages de l'époque. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est qu'il y avait les cinq nations civilisées, comme les appelaient les Américains, c'est-à-dire, tu avais les nations sauvages, les Sioux, les Cheyennes, les Indiens des Grandes Plaines, quoi. Et tu avais les nations civilisées, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà des agriculteurs sédentaires avant l'arrivée des Européens, les Séminoles et les Comanches et les Navarro, voilà. Et du coup, ceux-là étaient plus ou moins assimilés et ils avaient des domaines et parfois... je vous disais en introduction que tout à l'heure que les Indiens n'étaient pas forcément des enfants de cœur et eux aussi étaient parfois des exploiteurs. Et bien notamment, vous aviez des Indiens qui avaient, dans le sud des États-Unis, ce qui seront plus tard les États confédérés, vous aviez des Indiens qui étaient grands propriétaires terriens, qui avaient des grandes fermes, qui faisaient pas mal de pognon, sur le dos de quoi ? Sur le dos des esclaves noirs.
Des Indiens esclavagistes ?
Des Indiens esclavagistes, ça existait, voilà. Et on connaît, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal, mais il y a un personnage historique qui est très connoté comme ça, c'était Stand Watie, qui a été un général dans l'armée confédérée pendant la guerre civile américaine, de 1861 à 1865, et qui lui-même avait des esclaves, et donc son épouse menait grand train, comme les dames blanches de l'époque qu'on voit dans le film Autant en emporte le vent, par exemple.
Ah c'est intéressant ça, tu vois, c'est un vrai scoop, moi j'ignorais ça, hein.
Donc, les méchants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Mais bon, après, il faut quand même être juste. C'est quand même les sociétés, les peuplades amérindiennes qui ont subi la plus grande part des injustices. Il ne faut pas pousser non plus. Hein. Mais je tenais quand même à rappeler ce petit détail. Et tiens, quand je parle des injustices qui frappent les Amérindiens, elles frappent encore plus les Amérindiennes. Parce que si les hommes sont soumis à la violence sociale, la violence de la guerre, il y en a eu beaucoup, et aussi les microbes, l'alcoolisme, etc., bah les femmes, elles, en plus, elles ont aussi le loisir de se faire violer parfois. Et bien, les violences faites aux femmes, justement, bah, il y en a eu beaucoup par travers l'histoire. Alors, je ne pense pas que le viol ait été utilisé en tant que tel comme arme de guerre par les troupes américaines quand elles faisaient les guerres indiennes, notamment, parce que c'est quelque chose qui a été conceptualisé plus tard, à mon avis, mais bon, on peut répondre de rien, on n'y était pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu d'autres violences qui ont été faites de manière beaucoup plus sournoise. Je pense notamment aux stérilisations forcées. Alors ça... Déjà, il faut un contexte, il faut un arrière-plan conceptuel et idéologique pour ça. Et ça apparaît avec l'eugénisme à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire à partir du moment où on se dit qu'il faudrait peut-être purifier la société de ces éléments indésirables, eh bien, on se donne une légitimation pour faire ce que la technologie médicale à l'époque permet, c'est-à-dire de stériliser les gens, couper les trompes de Fallope, couper le canal spermatique chez les hommes, etc. etc. C'est nécessaire des opérations chirurgicales assez pointues. Mais à partir du 19e siècle, c'est faisable. On sait comment faire. Et du coup, ben, on ne s'en est pas privé. Alors évidemment, comme d'habitude, on dit oui, mais bon, on va d'abord stériliser, même pas euthanasier, hein, stériliser les trisomiques, les criminels. Enfin voilà, donc il n'y a personne pour s'y opposer dans ces moments-là. Mais ce que se sont aperçus les Amérindiens, que ce soit avant leur accession à la nationalité, à la citoyenneté américaine en 1924, ou même après, jusque dans les années 60, donc c'est quand même assez récent, quoi, c'est que des fois, une femme allait à l'hôpital, donc déjà il fallait qu'elle quitte la réserve, elle allait à l'hôpital pour une appendicite, et puis elle rentre, et puis elle s'aperçoit quelques années après qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Pourquoi ? Ouais. Parce que le chirurgien, sans rien lui dire...
L'a stérilisée sans les tenir au courant.
Pendant qu'elle était anesthésiée, l'a stérilisée. Pareil pour les hommes.
C'est monstrueux.
Et c'est monstrueux, c'est absolument abominable. Et ça a été le cas, ça n'est plus le cas aujourd'hui à ma connaissance, mais je le répète, de la fin du 19e siècle aux années 60, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Et surtout, qu'on leur a continué à appliquer ce traitement, même après leur accession à la citoyenneté américaine en 1924. Voilà. Donc ça, c'est un aspect aussi quand même assez odieux. Et un autre truc qui, moi, m'impressionne beaucoup, c'est qu'on n'est pas... Enfin, en règle générale, on se retrouve, on se comprend soi-même en se voyant dans le regard des autres. Ça, c'est un truisme de dire ça. Mais dans le point de vue de quelqu'un, comme disent les étudiants en sociologie, de racisé, eh bien, c'est d'autant plus important. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant dans le cas des Indiens, c'est leur culture, leurs us et coutumes, etc., eux-mêmes, bien entendu. Mais ce qui est intéressant dans le contexte de la civilisation nord-américaine, c'est aussi la manière dont les descendants d'Européens, les Occidentaux, les ont décrits à travers la littérature et le cinéma et tout ce qui est des préjugés, etc. Et ce qui est intéressant, pour résumer en quelques termes un peu triviaux, c'est le point de vue blanc sur la femme indienne. Voilà. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, les gens qui ont débarqué du Mayflower au début du XVIIe siècle, eh bien, ces gens-là étaient des puritains britanniques. C'était des gens qui fuyaient l'oppression religieuse en Angleterre et qui, du coup, sont venus chercher un pays de cocagne, une terre de liberté religieuse. Et d'ailleurs, les États-Unis sont toujours une terre de liberté religieuse. Mais c'était des gens qui vivaient corsetés. Ils n'avaient jamais vu le coude de leur mère, ils n'avaient jamais vu le coude de leur sœur. Le corps était absolument tabou. Et là, ils tombent sur des femmes indiennes dont ils voient les jambes. Vous imaginez le choc érotique, quoi. Et du coup, c'est qu'un préjugé qui est resté assez fort dans tout le long de l'histoire américaine, en fait. Et ça se retrouve dans la manière dont les femmes, les squaws, sont représentées dans les films western, dans les westerns, en fait, notamment. Et bien, c'est toujours une femme qui n'est pas forcément une femme facile, mais qui est une femme accessible. Et là, ça a eu une conséquence que je trouve assez dommageable, c'est que le nombre de femmes... Aujourd'hui, dans la société actuelle, le nombre de femmes amérindiennes violées, c'est 1 sur 3. C'est-à-dire que vous avez 33% des femmes, des femmes indiennes qui vont se retrouver violées au cours de leur vie. C'est-à-dire le double de la de ce qui existe dans le, enfin pour les femmes non indiennes dans la société américaine. Et il y a même un truc qui est là encore assez odieux et qui vient justement de cet état d'esprit. Eh bien, c'est qu'il y a des petits blancs qui vivent à côté des réserves, qui de temps en temps, le samedi soir, se font une virée entre mecs et qui vont jouer à violer une indienne. Et il doit y avoir un sentiment d'impunité, je ne sais pas, et qui vient aussi, ben, je pense qu'un tel comportement vient aussi d'une telle mentalité, et ça fait froid dans le dos, je ne vous le cache pas, voilà. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des éléments dont je voulais vous parler. Il y a quelques éléments quand même un petit peu plus positifs. Je vous parlais tout à l'heure de la situation dans les sociétés traditionnelles, la société tribale notamment, de la femme Cheyenne, qui m'avait beaucoup impressionné par rapport au film Soldier Blue. Vous avez des trucs... Qui peuvent surprendre encore aujourd'hui, c'est que s'il y avait de la polygamie, parce que les hommes mouraient plus facilement que les femmes, lesquelles parfois prenaient l'épée, mais étaient surtout cantonnées aux tâches de préparer la viande de bison, d'élever les gosses, de préparer le tipi, tout ça, pas des tâches infamantes d'ailleurs, hein, mais des trucs que les hommes faisaient moins souvent, eh bien... Et bien, il y avait de la polygamie, certes, mais en même temps, le divorce était beaucoup plus facile que dans des sociétés occidentales, par exemple. C'était beaucoup moins formel et il y avait aussi une liberté sexuelle qui n'existait pas forcément dans les sociétés soi-disant plus civilisées, telles qu'elles existaient chez les colons. Voilà. Et chez les Sioux, pareil, il y avait peut-être moins de mariages d'amour, etc. Il y avait beaucoup de mariages arrangés. Mais tout de même, on constate, quand on s'en penche sur ce cas-là, on constate quand même une grande qualité de rapports humains. La manière dont c'était envisagé, les rapports hommes-femmes étaient envisagés, étaient sans doute beaucoup plus progressistes que dans les sociétés des envahisseurs. Voilà. Et enfin, pour conclure cette chronique d'ailleurs qui nous avait été inspirée par une discussion qu'on avait eue à propos du Thanksgiving. Vous savez, chers amis, que les Américains, lundi 24 novembre, fêtaient leur Thanksgiving.
Eh oui, enfin, tout le monde sait ça. Nordine aussi, tu sais ça.
À force du cinéma américain qui nous gaffe de ça, même si on ne le fête pas ici parce que ça ne nous concerne pas, on connaît cette fête américaine qui célèbre en fait le premier repas qui a été partagé entre les colons et qui venaient d'Angleterre, genre les colons qui débarquaient du Mayflower, et les Indiens qui leur ont carrément sauvé la vie en leur apportant et de la viande de dinde, et du maïs, parce que les colons européens ne savaient pas survivre à l'hiver terrible qui existe sur la côte est des États-Unis. Et du coup, ben, en fait, les Indiens leur ont sauvé la vie, et bon, ben, il s'en est suivi un peu un retour à l'envoyeur qui n'était pas forcément des plus honorables. Voilà. Et du coup, ben, aujourd'hui, dans la société américaine contemporaine, il se trouve qu'il y a des femmes qui montrent l'exemple, mais d'une autre manière, puisqu'elles ont subi nombre de violences, et plus encore que les hommes, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais elles ont su prendre l'épée dans le passé, comme je l'ai montré, et aujourd'hui, elles savent prendre la plume par des romancières, notamment, comme tu le disais tout à l'heure, et aussi, ben, un truc, dans une société aussi procédurière que la société nord-américaine, eh bien, c'est des femmes qui savent prendre la plume pour devenir avocates. Et là, c'est une idée personnelle, ça n'engage que moi, mais je suis intimement persuadé que les guerrières du futur des sociétés amérindiennes, ce sont les avocates. Pourquoi je vous dis ça? Ben, au moins pour trois raisons. D'abord, il y a une région un peu folklorique, mais tout de même, c'est qu'aux États-Unis, chaque année, ils fêtent le Columbus Day, le jour de Christophe Colomb. Et en fait, les Noirs et les Indiens, et dans une moindre mesure les Hispaniques, considèrent qu'on ne devrait pas célébrer ça parce que l'arrivée de Christophe Colomb et plus généralement des colons européens en Amérique s'est traduit par un quasi-génocide. Et du coup, il y a de temps en temps des protestations menées notamment par des avocats, donc des minorités américaines, qui vise un petit peu à contester cette célébration. Un autre truc aussi, c'est que, je vous disais, les méchants sont pas toujours ceux qu'on croit. Et il y a un truc qui se passe dans les réserves amérindiennes qui est assez odieux, c'est que le principe des réserves amérindiennes, c'est que le gouvernement américain déplace des populations avec, soi-disant, leur accord et leur donne un espèce de revenu universel que les Amérindiens eux-mêmes complètent avec leur propre activité économique. Je vous donne un exemple. Les
casinos, je crois aussi. Ils sont très friands de casinos.
Exactement. C'est un des meilleurs exemples. Il y a aussi quelques ressources pétrolières, mais le principal, c'est les casinos. Et donc, vous avez, par exemple, dans des États où le jeu est interdit, eh bien, dans la réserve indienne qui est juste à côté, vous avez des Indiens qui ouvrent des casinos et les Blancs viennent dépenser leurs thunes là. Et du coup, bah, ça fait des rentrées fiscales considérables pour la tribu qui gère la réserve en question. Voilà. Eh bien, il se trouve que c'est certains chefs de tribu, autant par avarice que par cupidité, décide de revoir les arbres généalogiques des membres de la tribu. C'est-à-dire que dans ces sociétés, vous avez des, on peut très bien vivre sans bosser, par exemple, encore que ce soit pour vivre dans la misère, mais tout de même parce qu'il y a un genre de revenu universel, que ce soit par les subsides de l'État américain ou bien par justement l'argent des casinos. Mais pour augmenter leur part du gâteau, il y a des chefs de tribu de l'administration de la réserve qui décident que du jour au lendemain, on trouve un métis où on trouve un blanc dans ton arbre généalogique, ah, tu fais plus partie de la tribu. Voilà. Et résultat, du jour au lendemain, ta vie, elle s'écroule, t'es viré de la réserve, tu n'es plus rien, et surtout, bah, t'as plus de thunes, quoi. Et l'autre, eh ben, les autres, ils se partagent ta part. Et il y a des procédures judiciaires aux États-Unis, et à mon avis, il va y en avoir encore pas mal, à cause de ce genre de saloperie. Voilà. Donc vous voyez, les Indiens se sont bien convertis au capitalisme, et des fois, ça donne des histoires assez sordides. Et enfin, je vais conclure là-dessus, c'est qu'au XIXe siècle, le gouvernement américain a eu des comportements qui n'étaient vraiment pas tout à son honneur, hein, que ce soit dans le déplacement des populations, que ce soit dans le sort réservé aux Indiens, etc. Mais il a toujours tenu à mettre un vernis de légalité là-dessus, c'est dans la culture américaine, et du coup, il y a toujours eu des traités de signés. Pas forcément signé avec les bonnes personnes. Des fois, on avait juste une croix parce qu'on avait affaire à des gens qui étaient analphabètes. Mais il y avait toujours un traité, il y avait toujours un papier. Et ces traités, ils ont des fois été négociés à la va-vite. Et bien aujourd'hui, il y a des Indiens instruits, avocats notamment, qui commencent à dire au gouvernement américain « Ouais, mais attendez, là, en 1864, vous avez fait signer un traité, mais vous ne l'avez pas signé avec la bonne personne. Il y a vice de forme, etc. » Et ils commencent à renégocier les traités. Et ça fait bien chier Donald Trump.
Mais tant mieux.
Et à mon avis, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de suivre ce genre d'actualité, si vous êtes intéressé par la culture américaine et les problèmes sociaux là-bas, eh bien, je vous invite à suivre ce genre de choses parce que dans les 20 prochaines années, ça réserve de belles surprises. Soyez-en sûrs. Voilà, chers amis. On a passé un petit peu sur le cas des femmes amérindiennes au Canada. Je m'en excuse, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments.
Non, toi, mais c'était très intéressant.
Tu avais quelques éléments sur les violences faites aux femmes
au
Canada,
notamment.
Mais oui,
parce que tu en as parlé tout à l'heure et un petit peu. Et moi, je me suis intéressée, puisque c'est un phénomène actuel. Enfin, actuel, ça existe depuis très longtemps. Justement, on en parle, c'est les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'il y a une manifestation? On en reparlera à la fin de l'émission. Il y a une manifestation demain qui a lieu à Avignon contre les violences faites aux femmes, aux filles. Bien entendu, les hommes sont les bienvenus. C'est une manifestation pacifique. Les mesures prises par le gouvernement sont, à mon avis, pas assez complètes. Bref, donc je me suis intéressée surtout à ces violences qui sont faites à ces femmes autochtones, puisqu'il y avait un rapport compilant 2 ans d'enquête qui concluait que les 2200 femmes disparaissaient ou étaient assassinées ou avaient été assassinées entre 1980 et 2012, et que c'était bien une violence endémique. Alors, excusez-moi, je vous annonce tout de suite que si vous entendez des bruits de gorge, des bruits de nez bouchés, c'est mon rhume. Mon rhume est direct. On est en direct et mon rhume.
Mais t'as toujours une voix sexy.
Tout à fait, oui, c'est ça. Et que les enlèvements, les disparitions, la prostitution et parfois même les meurtres inexpliqués sont le lot fréquent des femmes autochtones au Canada. où ce sujet de société reste tabou, même si l'ONU vient de dénoncer un phénomène inquiétant. Et ces femmes autochtones, alors ça s'étend, là je parle du Canada, depuis Trudeau a pris des mesures, cher ami Trudeau, et ces femmes autochtones sont plus souvent victimes de disparitions ou d'assassinats que les autres femmes, en raison, selon les experts, d'une importante vulnérabilité, d'une discrimination plus grande de cette population et du désintérêt marqué par la société et les autorités à leur encontre. Je résume, hein, mais c'était un petit peu aussi ce que tu disais tout à l'heure. Donc les femmes se sont regroupées, elles ont manifesté en demandant à ce que le gouvernement engage une enquête nationale, ce qui a été fait un peu plus tard. Et donc on lisait, il y avait l'anthropologue Marie-France Labrec qui disait que les préjugés persistants subis par les femmes autochtones étaient directement issus de l'époque coloniale et que les historiens montrent que certains Européens ont traité les femmes autochtones comme des prostituées et qu'ils bénéficiaient quand même d'une certaine impunité. C'est toujours cette Madame Labrec qui citait des témoignages de familles venant signaler à la police la disparition d'une proche où il leur était répondu « Votre fille est partie avec son amie, elle a fait une escapade, mais elle va revenir ». Et que cette négligence favorisait donc une certaine impunité selon elle, en considérant la police comme une extension de l'appareil d'État. On peut dire en dernière analyse que l'État est responsable de cette impunité. Donc moi j'ai vraiment un peu axé les recherches là-dessus, parce que même si Trudeau a fait des efforts en la matière, il n'en reste pas moins vrai que ces femmes disparaissent très facilement. Et celles qui avaient signalé le fait en criant même, c'était Margaret Atwood, une écrivaine, celle qui a écrit La Servante écarlate. C'est une série.
Ah oui, ça a donné une série, oui.
Elle s'est vraiment élevée contre ces disparitions de femmes et elle a fait en sorte que le sujet devienne une vraie préoccupation. Donc, quelquefois, la voix des écrivains, ça porte. Mais ça reste dommage parce que ça continue, ces disparitions, ces assassinats continuent au Canada comme ailleurs.
Mais tu sais, des fois, je me demande si des femmes autochtones, ceux qu'ils appellent les Premières Nations au Canada...
Ça, oui, parce qu'on dit autochtones avec une nuance, hein, pas tout à fait...
Voilà, on dit Native Americans aux États-Unis et on dit Premières Nations en français dans le texte au Canada. Toujours est-il qu'il y a deux aspects que... compléter un petit peu ce que tu disais. Il y a deux aspects qui m'intriguent. C'est que il y a peut-être aussi des femmes qui disparaissent au Canada parce que la production de pétrole par rapport au sable bitumineux est un enjeu considérable là-bas, au Canada, bien que Justin Trudeau s'en défende parce qu'il est un tantinet hypocrite. Et, autant qu'il est beau gosse, c'est vous dire. Et du coup, ouais, comme il y a pas mal de femmes qui prennent part à la défense des terres des Indiens au Canada, et que notamment ce sont des terres où il y a parfois des sables bitumineux. Et comme elles s'opposent à l'exploitation de cette source d'énergie, eh bien des fois je pense, j'ai pas de preuves, hein, mais je pense que s'il y en a qui disparaissent, à mon avis, c'est aussi parce que politiquement elles sont des adversaires pour des intérêts économiques, c'est clair.
Tout à fait plausible. Hein.
Et par ailleurs,
tout à fait.
Ouais, et par ailleurs, il y a aussi une question, si c'est une question importante au Canada, et tu fais bien de le rappeler, c'est aussi pour des raisons démographiques. Je donne un exemple, c'est qu'aux États-Unis, les Amérindiens, toutes tribus confondues, toutes nations confondues, sont 3 millions, c'est-à-dire 1% de la population. Au Canada, je ne sais plus en combien ils sont en chiffre absolu, mais ils représentent 3 ou 4% de la population canadienne. Donc, c'est autrement plus important. Et du coup, s'il y a des femmes qui disparaissent dans une minorité qui représente 3 ou 4% de la population, ça fait plus d'écho mathématiquement que dans un pays où ça
ne représente
5%.
Oui, parce que tu vois, moi j'avais les chiffres au Canada, hein, les populations autochtones ne représentent que 4% de la population féminine canadienne.
Voilà, donc mes chiffres étaient à peu près ça. Bon.
Que les femmes autochtones comptent pour 16% des victimes d'homicides commis contre des femmes sur les 30 dernières années et 11% des disparus. Ça, c'était les rapports de la Gendarmerie royale du Canada.
La fameuse police montée, voilà. Mais bon, et pour aller dans le sens de ce que tu disais, mais pour conclure, avant de faire une pause musicale, pour conclure sur un personnage positif, et puisqu'on parlait de la Première Guerre mondiale en ce mois de novembre, puisque le 11 novembre, c'était l'autre jour, eh bien, j'avais envie de citer justement une Canadienne d'origine iroquoise qui s'appelait Edith Anderson, qui, pour aller dans le sens de ce que tu disais, disais-je, était une de ces femmes considérées comme une femme de mauvaise vie, comme on dit pudiquement au Canada. C'est-à-dire que au début du 20e siècle, bah, c'était l'époque où on commençait un petit peu les stérilisations. Hein. Elle aurait très bien pu être stérilisée elle-même, d'ailleurs, étant considérée comme ça. Et du coup, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle voulait faire infirmière, elle. C'est une femme qui avait compris que quand tu étais une indienne, donc pas très, très bien considérée au niveau social, si tu voulais t'élever, c'était par l'éducation, c'est clair. Et du coup, ben, elle voulait faire infirmière. Et au Canada, elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas le droit d'être élève infirmière du fait qu'elle était indienne. Alors du coup, ben, elle a passé la frontière, elle est allée faire son école d'infirmière aux États-Unis et elle s'est fait envoyer dans l'armée canadienne, ben, sur le front de la Somme notamment, en 1917. Elle a soigné pas mal de gars qui avaient été gazés. Donc bravo Madame Anderson. Oui, bravo, et merci Anderson. D'être venue chez nous. Voilà, chers amis, on va conclure cette...
Avant de conclure, est-ce que moi je peux dire aussi une petite note jolie avant la pause musicale? Chez les Amérindiens, l'amour se dit... Tu danses dans mon cœur. C'est beau, hein?
Ah ouais, c'est joli.
Ah ouais, c'est joli, c'est bientôt Noël.
C'est vrai qu'on ne vous a pas cité beaucoup de termes en langues amérindiennes. À notre décharge, je peux dire que c'est quand même très difficile à prononcer. Mais c'est je vrai. Ne connaissais pas cette jolie expression et on va la garder. Je vais la reprendre à mon compte, tiens. Quelqu'un qui reprenait aussi à son compte certains aspects de la culture amérindienne, bah, c'est parce qu'elle est directement concernée, puisqu'elle était elle a des gènes un petit peu de Cherokee, si j'ose le résumer comme ça. C'est la chanteuse Mary Sue, en fait, qui il y a une dizaine d'années sortait un très joli morceau que je vous propose d'écouter tout de suite, Wide Eyes.
Paradise, la jolie voix de Marie Issue à l'instant qu'on écoutait, une demoiselle, une chanteuse folk américaine d'ascendance Sioux, bah, comme son nom le laisse entendre, et aussi Cheyenne, d'après ce que j'ai compris en lisant sa biographie. Voilà, chers amis, soyez bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien avec Laurence, Stéphane et Nourdine derrière les manettes. Vous êtes bien dans Erosmose. Dans une première partie d'émission, on avait abordé un sujet passionnant. On a même largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'est pas grave. On avait abordé le sujet de la condition de la femme dans les sociétés amérindiennes avant et pendant la colonisation et la formation de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Canada. Et maintenant, je vous propose de passer le Rio Grande, d'aller dans les contrées un petit peu plus au sud, notamment le Mexique. Parce que tout à l'heure, on parlait des violences faites aux femmes aux États-Unis et au Canada. Et hélas, un endroit au monde qui défraye la chronique à ce sujet, au sujet des violences faites aux femmes, c'est souvent ben, le Mexique, dans lequel il y a même quasiment des meurtres, alors, non seulement en série, mais de masse.
Tout à fait, il y a des meurtres en particulier dans une ville qui s'appelle Ciudad Juárez, et qu'on appelle la capitale des filles disparues. On va en parler très brièvement parce qu'après j'ai prévu de vous lire quelques lettres de la correspondance de Frida Kahlo à son Diego. Donc, je vous le dis comme ça, hein, Ciudad Juárez, c'est une ville à la frontière avec les États-Unis, c'est l'état de Chihuahua. Et cette ville, elle a quand même pour particularité d'avoir enregistré de 1993 à 2013, 1441 crimes des féminicides qui ont été commis à Ciudad Juárez, selon le centre universitaire Colegio de la Frontera Norte, qui reprend des chiffres officiels. Et les deux tiers de ces féminicides ont été perpétrés après 2008. Donc, je vous fais ça très court. Il y a plus de 600 femmes qui auraient disparu à Ciudad Juárez depuis 1993, donc selon les organisations civiles, qui luttent contre l'amnésie statistique des autorités. Il y a eu un très beau spectacle au festival cette année au théâtre, au Shams Théâtre, avec Clémence Caywell qui jouait une de ces femmes disparues. Donc, ça reste des chiffres effrayants. Et en 2009, une sentence historique de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pointait la responsabilité des autorités mexicaines dans la perpétuation des féminicides à Ciudad Juárez. Alors bon, je,